Le président du Rassemblement dresse un bilan sombre de la situation sécuritaire, politique, économique et sociale de la RDC. Selon lui, les cinq chantiers de la République se sont transformés en cinq fléaux qui sont notamment l'insécurité généralisée, la corruption et l'enrichissement illicite, l'illégitimité et l'illégalité. Félix Tshisekedi l'a déclaré au cours d'un point de presse ce mardi à Kinshasa. Il appelle à la mobilisation de toutes les forces politiques opposées au président Kabila pour obtenir son départ en 2017. Quel est-il faire de cette déclaration? C'est la question du débat et nous en parlons avec Maître Patricia Nseya et le secrétaire national de l'UDPS en charge des questions sociales. Bonsoir Maître Patricia Nseya.
Bonsoir Monsieur.
Serge Kadima, cadre du PPRD et aussi communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir Monsieur Serge Kadima.
Bonsoir.
Et Alain Parfengoulungu, chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir Monsieur Alain Parfengoulungu.
Bonsoir Monsieur Guy.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Point de presse du président du Rassemblement ce mardi à Kinshasa. Félix Tshisekedi a dressé un bilan sombre de la situation sécuritaire, politique, économique et sociale de la RDC. Selon lui, les cinq chantiers de la République se sont transformés en cinq fléaux, je cite, l'insécurité généralisée, la corruption et l'enrichissement illicite, les théories de masse, la tyrannie, l'illégitimité et l'illégalité. Pour le président du Rassemblement, les retards dans l'organisation des élections incombent au président Joseph Kabila. Réaffirmant par ailleurs sa volonté de poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route du Rassemblement, Félix Tshisekedi lance une mobilisation de toutes les forces politiques opposées au président de la République pour obtenir son départ en 2017. On écoute Félix Tshisekedi, président du Rassemblement.
Les cinq chantiers dont on nous parlait jadis se sont transformés en cinq fléaux. 1. L'insécurité généralisée. 2. La corruption et l'enrichissement illicite. 3. Les tueries de masse. 4. La tyrannie. 5. L'illégitimité et l'illégalité. Ainsi va le bilan des 17 ans de pouvoir kabiliste. La République démocratique du Congo paraît bien comme un patrimoine dont Joseph Kabila seul détient le certificat d'enregistrement en tant que propriétaire. Et sur cette base, il a décidé que les Congolais n'ont pas droit à des élections pour se choisir notamment un président de la République. Il a décidé que ses partisans exceptés, aucun Congolais n'a le droit d'exprimer ses opinions, encore moins de manifester sans s'exposer à aller grossir encore davantage le nombre, il est vrai, chaque jour croissant, des prisonniers ou des exilés politiques.
Maître Patricia Nseya, vous êtes secrétaire national de l'UDPS en charge des questions sociales. Nous venons de suivre le président du Rassemblement, M. Félix Tshisekedi, qui appelle à l'unité de toutes les forces anti-Kabila afin d'amener ces derniers à abandonner le pouvoir d'ici à la fin 2017. Quel sens vous donnez à cet appel à la mobilisation?
Pour commencer, je dirais que cette conférence de presse a été tenu subsidiairement au meeting empêché par le régime finissant lors du retour du président du Rassemblement le dimanche 3 septembre. Et cet appel à la mobilisation et à l'unité, c'est en marge de la réunion qu'il a tenue en Europe et des contacts qu'il a pris avec les partenaires pour qu'on arrive effectivement à l'alternance démocratique au sommet de l'État dans notre pays.
Alors, quand vous appelez à l'unité de toutes les forces anti-Kabila, vous vous attendez à quoi? À la mise en place, une fois de plus, d'une méga plateforme politique?
Non, pas du tout. L'appel à l'unité, ce n'est pas seulement au rassemblement. On appelle à l'unité. Et chacun, chaque structure, chaque plateforme peut se réunir de son côté. Mais quand il s'agit des actions, là, tout le monde doit se mettre ensemble parce que, dit-on, l'union fait la force et ensemble, nous sommes forts.
Et donc, le travail de Genval n'a pas abouti. Hein, donc, vous êtes là en train de vous rendre compte que seul le rassemblement ne pourra pas, n'est-ce pas, faire partie de Kabila.
Non, monsieur le journaliste, vous comprendrez que le rassemblement, déjà aujourd'hui, est le porte-parole du peuple congolais. Déjà, quand nous organisons des meetings, des manifestations, c'est pas pour rien que le régime illégitime et illégal empêche les manifestations du rassemblement, parce qu'il sait que c'est lui le porte-parole, et s'il appelle à la mobilisation, c'est tout le monde qui répond à cet appel. Donc c'est pas le Genval n'a pas échoué, ou Genval je ne sais pas, mais c'est aujourd'hui le rassemblement et l'œil du peuple congolais.
Et si l'objectif est d'obliger, n'est-ce pas, Kabila à quitter le pouvoir d'ici la fin de l'année 2017, vous envisagez quelle approche, la négociation ou la force?
Non, monsieur le journaliste, on a négocié et on a compris qu'en face de nous, on a des hommes inconscients, des hommes irresponsables, excusez-moi le terme, des hommes qui ne respectent pas leurs engagements, qui ne respectent pas leurs paroles. Et je ne pense pas que, à ce jour, on doit encore rentrer sur les bancs de négociation. Au jour d'aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est l'appel à la mobilisation, c'est de mettre en place des actions vigoureuses, de mettre en place des actions de grande envergure pour faire partir ce régime.
Et là, vous n'allez pas tomber dans le deuxième alinéa de l'article 64?
Pas du tout, parce que déjà, c'est pas la première fois au Burkina Faso. On connaît ce cas. Ici à côté, à Centrafrique, partout en Tunisie. Donc on ne va pas tomber dans l'alinéa 2 de l'article 64. Et d'ailleurs, que dit cette alinéa? Excusez-moi, je vais le lire.
C'est l'article 64 de la Constitution.
Oui, tout à fait.
Il y a des alinéas.
Cette alinéa, l'alinéa 2,
voilà,
qui dit toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Mais au jour d'aujourd'hui, ce régime a violé la loi, cette loi. Et comment voulez-vous qu'on puisse aller à l'encontre de cette constitution que lui-même, le régime en place, le régime finissant, a rejeté?
Et donc la constitution vous donne, n'est-ce pas, le pouvoir d'entreprendre vos actions?
Tout à fait. L'article 64, l'alinéa 1er, nous le permet. Et donc c'est à ça que le président du RASOP a appelé le peuple congolais et toutes les forces vives de la nation.
Madame, en vous radicalisant ainsi, vous ne pensez pas que vous offrez au camp présidentiel l'occasion de se radicaliser à son tour, et du coup vous éloignez, n'est-ce pas, la possibilité d'une résolution pacifique du problème?
Résolution pacifique, je pense que ce mot-là n'existe plus dans la bouche du régime, excusez-moi, je vais me répéter, de ce régime illégal et illégitime. Alors, à quoi bon aller des négociations? Je pense que ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est mobiliser le peuple congolais, c'est mobiliser les forces vives de la nation pour, avec des grandes envergures, comme l'a souligné le président du RASOP. Et je pense, on va imiter l'exemple de nos frères du Burkina Faso, de la Tunisie. Et comme notre pays, c'est un grand pays, je pense, on fera des actions de grandes envergures qui fera que ce pays, ce régime va...
Donc, vous appelez la population à la révolte, c'est ça?
Pas à la révolte, mais à se prendre en charge.
Oui, mais est-ce que c'est différent?
C'est différent parce que la révolte, là, c'est... Quand vous appelez à la révolte, c'est appeler quelqu'un à casser, à piller, mais nous appelons le peuple congolais à se prendre en charge.
Vous avez évoqué l'exemple de la Tunisie, du Burkina Faso. C'était une révolte populaire.
C'était pas une révolte, c'était une prise en charge qui a abouti à l'alternance au sommet de l'État.
Ok, alors des discours similaires ont été entendus en 2016, mais là nous sommes en septembre 2017. Apparemment, rien n'a changé, en dépit du fait que vous avez tenu ce discours-là en 2016.
C'était en 2016, vous nous avez... Et bon, excusez-moi de dire vous, on est allé aux négociations et à ce jour, on ne pense pas qu'on va encore revenir sur les négociations. À ce jour, on pense que seules les actions, c'est le mot, c'est le langage que comprennent notre adversaire politique.
Merci Serge Kadima, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Le président du Rassemblement appelle à une mobilisation contre le président Kabila. Votre réaction?
Merci pour cette opportunité. Mais tout simplement, je vais vous dire d'emblée que lorsque j'ai suivi M. Félix Tshilombo, j'ai l'impression de quelqu'un qui veut déjà avancer les événements, quelqu'un qui s'inscrit déjà dans la logique de la campagne. Je veux un acteur politique de l'opposition vouloir créer un discours pour sa campagne, mais malheureusement, il se trompe dans la mesure où il a évoqué les 5 chantiers. Peut-être qu'il était un peu distrait. Les 5 chantiers constituent en fait pour nous la synthèse du discours programme que la majorité présidentielle, avec son candidat, le président de la République, avait proposé à la nation congolaise en 2006. Donc, les 5 chantiers, ça a été. Donc, c'était pratiquement la synthèse de notre discours que nous avons proposé à la population en 2006 pour le premier mandat. Et je vais aussi rappeler qu'en 2006, nous avions eu la faveur du peuple congolais, c'est-à-dire que le peuple congolais avait estimé que c'était le meilleur discours, c'était le meilleur programme. C'est comme ça que le président Joseph Kabila avait été élu et que tous les autres candidats de la majorité présidentielle étaient également élus pour constituer une majorité présidentielle, majorité parlementaire au niveau du Parlement.
Malheureusement, ces 5 chantiers se sont transformés en 5 fléaux, selon Félix Tshisekedi. Il parle de l'insécurité généralisée, la corruption, l'enrichissement illicite, les tueries de masse, la tyrannie, l'illégitimité, l'illégalité.
Monsieur, vous posez des questions, c'est à moi de vous répondre. Monsieur Félix a fait allusion aux 5 chantiers. Je rappelle ici que les 5 chantiers ont été proposés au peuple congolais lors des premières élections en 2006. À l'époque, je ne sais pas où se trouvait M. Félix Tshilombo. Et le peuple congolais avait souscrit à ces programmes en votant pour les candidats, les meilleurs candidats de l'époque, le président Joseph Kabila. Et en 2011, nous avons été voir la population pour dire « Vous nous aviez élus pour tel programme qui comportait les 5 chantiers et maintenant, donnez-nous encore l'opportunité, nous vous proposons maintenant la révolution de la modernité. » C'est-à-dire qu'avec les 5 chantiers, c'est un programme qui est déjà révolu pour nous. C'est vrai que la finalisation de ce que nous avons promis se poursuit. Il est distrait, ou bien il a été distrait, ou bien il avait été absent pendant longtemps du pays, et qu'il revient, il a oublié d'interroger l'histoire pour qu'on lui dise que nous sommes déjà dépassé de cette question en rapport avec les 5 chantiers. Maintenant, nous nous sommes inscrits dans la logique de la révolution de la modernité avec les caps vers l'émergence du pays et à l'horizon 2030 et dans un pays développé à l'horizon 2050.
Et lorsqu'il parle des 5 fléaux, est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans ces 5 fléaux?
Je vais aller point par point. M. Félix Tshisekedi a parlé de la situation sécuritaire. Selon lui, c'est le bilan assombré dans la situation sécuritaire qu'il a décrié, sinon qu'il a dessiné à sa manière. Mais il s'est réveillé en retard. Ça fait 3 mois. Le président Joseph Kabila s'était déplacé personnellement par 2 reprises dans les Kananga pour qu'on mette fin au phénomène Kamwelantsapu. Après son passage, aujourd'hui, on est arrivé à éradiquer cette situation. Le président Joseph Kabila, déjà en 2013, lorsque la nation était menacée, il s'était mobilisé seul. Il s'est rendu par 2 fois à Beni. Il s'est rendu plus d'une fois à Goma pour mettre fin à la guerre du M23. Et pour cela, il a engagé les moyens. Les moyens diplomatiques, les moyens. Il a utilisé l'armée. Il a également utilisé toutes les options possibles en convoquant les concertations pour que les filles et les filles de ces pays discutent, donnent des idées pour comment ensemble, comme un seul homme, mettre fin à cela.
Et par rapport à la corruption et à l'enrichissement
illicite, je suis en train d'aller point par point. Il a parlé de la situation politique. Étant donné que nous avions tous reconnu qu'il s'est posé un problème politique dans ces pays, le président Joseph Kabila était la première personne à avoir écouté les cris des uns et des autres, en confiant un travail important à un haut fonctionnaire de la République pour approcher tous les acteurs politiques dans ces pays. Et tout le monde avait consenti qu'il fallait qu'on trouve une solution politique autour d'un dialogue. Nous en avons eu 2. c'est dans sa sagesse légendaire.
Voilà. Après cela, vous dites là que le chef de l'État a écouté tout le monde, mais que répondez-vous à ceux qui disent que c'est l'intransigeance absolue de la majorité présidentielle qui pousse le rassemblement à pouvoir se radicaliser?
Je réponds à cela que c'est légitime de tenir des propos pour justifier son existence sur le plan politique. Nous ne pouvons pas interdire aux compatriotes de créer des scénarios, de rêver ou de faire des comédies. Mais nous pensons que ce qui est important, c'est qu'à ce jour, il y a plus de 34 millions de compatriotes qui se sont exprimés lors des dernières élections. Et à ce jour, il y a plus de 40 millions de compatriotes qui veulent s'exprimer par les urnes. Il n'y a personne qui peut prétendre avoir la légitimité de parler au nom du peuple congolais aujourd'hui pour qu'on commence à proposer des formules du genre transition, du genre il faut qu'on change ceci, il faut qu'on commence par telle élection, il ne faudra pas qu'on organise telle ou telle autre élection. Nous n'avons pas besoin d'organiser des élections dans ces pays de manière sélective. Nous avons besoin d'avoir la démocratie dans toutes les institutions et à tous les niveaux. Donc, sur le plan économique, mon frère, mon compatriote Félix Tshisekedi est en retard. Il y a 3 mois, le président de la République ayant évalué la situation économique de mon pays, il a réuni les membres du gouvernement à qui il a donné des instructions claires et précises. Il a donné des orientations stratégiques, notamment sur comment arrêter immédiatement l'inflation, comment stabiliser les cadres macroéconomiques et relancer rapidement les activités économiques avec toutes les conséquences positives sur la vie de nos compatriotes. Il se réveille en retard et le gouvernement...
Et les résultats aujourd'hui, c'est quoi?
Les résultats aujourd'hui, c'est quoi? Qui ne sait pas qu'on changeait un dollar à 1000... $1 s'est changé à 1750 francs congolais. Et aujourd'hui, nous sommes à 1550. Donc, nous sommes passés de 1750 à 1050. Donc, c'est un effort, il faut l'admettre.
Donc, vous voulez dire que M. Félix Tshisekedi n'a pas raison sur toute la ligne?
J'ai dit ceci. J'ai dit qu'il n'a pas tort de se réveiller en retard. Mais le président de la République, le garant de la nation, l'avait déjà fait. Et vous avez vu, il a même diligenté une équipe gouvernementale au Katanga, dans les Bas-Congo, et les missions vont se poursuivre. Il y a eu plusieurs missions qui se sont tenues. Il y a plusieurs commissions qui siègent tous les jours sous la présidence du directeur du cabinet chef de l'État.
Merci, Serge Kadima.
Pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution.
Merci, nous avons compris. Alain Parfait Ngoulungu, chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Votre analyse par rapport à cet appel à l'unité des forces anti-Kabila afin de pousser l'actuel président à abandonner le pouvoir d'ici la fin 2017.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de commencer, très rapidement saluer mes deux co-débatteurs, jeunes professionnels politiques avec qui j'aimerais échanger de manière libre, mais aussi responsable, parce que les pays, plus de 80 millions de Congolais, attendent de la classe politique des alternatives face à la situation politique macabre à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui attend des solutions idoines pour résoudre cette crise. Mais j'aimerais, pour analyser la rhétorique du président du Rassemblement, tenu dernièrement à cause du fait qu'il lui a été refusé les droits d'expression, la parole tout à fait politique, étant donné qu'il incarne aussi une position assez importante au sein du champ politique. Et en suivant son discours, j'en ai tiré des leçons principales. D'abord, son discours, au-delà du symbolique, au-delà du visible que nous voyons tous, représente une sorte de déception d'un acteur politique qui protagoniste actuellement la crise, à des remords à exprimer face à son adversaire qui est incarné ici par la majorité présidentielle. De deux, j'ai trouvé aussi qu'il a eu la chance peut-être d'approcher, d'adapter son discours à la vérité du monde social, à la réalité à laquelle nous sommes en train de traverser. Marasme économique, crise sociale ici et là, grève par-ci et là. Bref, à une situation politique et économique morose. Et il a eu la chance vraiment d'adapter son discours par rapport au contexte actuel de la situation. Mais de l'autre côté, ce que ces discours révèlent aussi, c'est la logique de lutte interne au sein de l'espace politique, entre principalement la majorité présidentielle et les RASOP. C'est une classe politique à laquelle la République attendait beaucoup. Mais malheureusement, Guy, j'en suis très déçu parce que à entendre les deux protagonistes représentés ici, il n'y a aucune alternative proposée à la République. On nous parle tantôt d'un appel à la mobilisation générale, et alors là, je n'aimerais pas utiliser comme eux la langue du bois, ça veut dire quoi? Hein? De l'autre côté de la majorité présidentielle, on vous dit, bon, voilà, des lettres, un chapelet de bonnes intentions. Il y a 3 mois, il a fait ceci. Mais lorsqu'on voit la réalité sur terrain, on se rend compte que mes deux protagonistes vivent dans les ciels. Moi, en tant que citoyen lambda, je suis sur terre. Donc, tout ça, ça veut dire quoi? Et j'en appelle vraiment à un sens beaucoup plus d'analyse approfondie de la situation politique. Je comprends. Ils ne font qu'incarner les idéologies de leurs composantes politiques. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Mais ce qui est malheureux, c'est apparemment toute la classe politique est en train de passer à côté de la plaque, à côté de la vraie situation réelle de plus de 80 millions de Congolais. Il faut visiter le Congo profond pour voir comment la population gronde.
Est-ce que M. Parfait Alain, on pouvait s'attendre à cette radicalisation du rassemblement?
Bien entendu, moi ça ne m'étonne pas. Cette radicalisation, nous l'avions connue dans la transition de l'ex-Zaïre. Rappelez-vous sous Mobutu, ce qu'on appelait la mouvance présidentielle et l'Ussoré allié. C'est ça. Et malheureusement, ça continue, cette sorte de radicalisation qui ne fait avancer la République en rien.
Alors, j'ai posé la même question à Serge Kadima. Ceux qui disent que c'est l'intransigeance absolue de la majorité qui pousse le rassemblement à se radicaliser, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort?
Bon, à voir comment les uns et les autres agissent sur l'échiquier politique, il me semble qu'il y a une partie qui est dans l'institution. Une partie protagoniste dans les institutions, évidemment, par la ruse, par évidemment l'activation du clientélisme, voire même de la patrimonisation du pouvoir politique, elle arrive, cette partie-là, à utiliser les ressources publiques, bien entendu, au profit de cette sorte d'aristocratie qui s'est installée derrière, malheureusement, les apparentes institutions républicaines. Mais c'est vrai que les RASOP qui vient avec une proposition comme d'un appel à la mobilisation générale n'arrive pas à comprendre cela pour amener à la République des propositions concrètes. Je donne un exemple. Lorsqu'on appelle à une mobilisation générale, ça veut dire quoi concrètement? De manière pratique, on va faire quoi? Et après, parce que les débats sont autour de la fin du mandat présidentiel. Parce que, contrairement à l'article...
Vous avez suivi Mme Patricia Nseya qui a parlé, a fait elle a évoqué l'exemple du Burkina Faso et de la Tunisie.
Savez-vous le coût nous sommes... c'est une émission à caractère pédagogique, je n'aimerais pas citer ici. Les coûts d'une telle, d'un tel mouvement... Que ce soit un mouvement non violent, mais il y a un coût en termes de pertes en vies humaines. Je n'aimerais pas vraiment que la RDC prenne cette voie-là, parce que j'en connais les conséquences. Et nous avons déjà les 6 millions de décès dus justement aux guerres et crises que nous avons connues ici. Donc c'est énorme. Donc je n'aimerais pas que mon pays emprunte cette route-là. Mais il y a une voie. Si nous, on rentre dans l'ordre constitutionnel, parce que ce sont eux, les politiciens, la classe politique, de manière générale, qui nous ont amené l'accord du 31 décembre, que l'on semble éluder ici dans les débats. C'est les politiciens qui nous ont amené ça. Ce n'était même pas par un mandat accordé par, bien entendu, le peuple. C'était entre eux. Ils ont signé un accord qui, aujourd'hui, gît dans les tiroirs de l'oubli général, pratiquement. Et j'aimerais relever cela parce que l'article 2 de cet accord précise clairement par rapport au fonctionnement des institutions actuellement. Et on n'en est même pas arrivé à la fin du mandat actuel, parce que ce mandat a été prorogé à la suite de la signature de cet accord-là. Et voilà, les politiciens veulent nous amener vers un chemin, pratiquement un chemin vers le chaos dont on ne connaît même pas les tenants et les aboutissants.
Maître Patricia Nseya, il y a Gabriel Bekeni qui dit ceci, demander les peuples, appeler plutôt les peuples à la mobilisation, c'est une chose, le faire partir en est une autre. Qu'est-ce que les rassemblements préconisent de concret pour faire partir Kabila? Encore des villes mortes. Si les rassemblements réussissent à les faire partir, qui prendra le pouvoir? Et pour combien de temps? Et le pays sera régi par quelle loi? Ça, c'est Gabriel de Kisangani.
Oui, avant de répondre à la question de Gabriel, je voudrais rappeler ou réagir ici en disant que Félix Tshisekedi, président du RASOP, s'il a parlé de cinq fléaux, cinq chantiers qui se sont transformés en cinq fléaux, c'est parce qu'il vit à Kinshasa, il connaît la misère du peuple congolais. On nous dit aujourd'hui qu'on était aux cinq chantiers, nous sommes passés à la révolution de la modernité. Mais messieurs, pour passer de classe, il faut au préalable avoir réussi aux examens, il faut avoir la mention bonne, avoir la mention excellente. Comment on peut passer des cinq chantiers à la révolution de la modernité sans pour autant analyser? Est-ce que les cinq chantiers, on a réussi, on n'a pas réussi? À ce jour, quand on parle, prenons d'abord par exemple, parmi les cinq chantiers, la sécurité. On a des poches de tension sur toute la République. Pas plus tard qu'hier, à Pointeau, il y a eu aussi des tueries, des massacres. Au Béni, dans les Kassai, partout ici. Et quand on prend un autre, parmi les cinq chantiers, on prend le social. Monsieur le journaliste, il faut voir à Mamaïm. On a des morts tous les jours. Pourquoi? Parce que les médecins sont en grève. On prend le secteur éducation qui est la clé de développement de toute nation. Il y a les enseignants qui sont en grève. Quand vous allez dans des écoles privées qui ont repris, la rentrée est vraiment timide. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons échoué ou ils ont échoué la première étape. Alors pour aller à la seconde étape, il fallait faire l'analyse, des analyses vraiment critiques et passer à la seconde étape.
Voilà, il y a une autre question, madame. Oui, il y a une autre question. Vous allez répondre à la première, mais il y a une autre qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu, vous dites que vous, on va l'écouter.
Maître Zozo Sakali, depuis la ville de Bukavu, en province du Sud-Kivu. Comment comprendre qu'un politicien d'une renommée et si grande comme Félix Tshisekedi puisse se permettre de tenir une déclaration de telle envergure sans faire allusion ni à l'accord de la Saint-Sylvestre pourtant signataire, ni à la constitution du 8 février, et moins encore à la loi électorale pour mobiliser les opposants sur le départ du président Joseph Kabila Kabange. Moi, je pense pour ma part que cette mobilisation est inopportune et risque d'être considérée comme un coup d'épée dans l'eau par les pouvoirs en place, d'autant plus que non seulement elle n'a pas de soubassement juridique, le peuple serait d'accord avec cette mobilisation si l'on pouvait y joindre des actions concrètes et un schéma réaliste afin d'aboutir aux élections dans le respect de l'accord.
Oui, madame, si vous avez bien compris, on vous demande d'être concret, en fait, que les rassemblements soient concrets. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ces actions-là se traduisent en quoi, concrètement?
Je ne vais pas dévoiler ici les actions, d'autant plus qu'on a d'abord commencé par la première étape qui est celle d'appeler toutes les forces vives de la nation à l'unité. Et la seconde étape, ça sera d'analyser les actions qui vont vraiment cette fois-ci, plus que jamais, mettre fin à ce régime. Et la deuxième question qui m'est posée, monsieur de Bukavu qui parle de l'accord, c'est pas que Félix Tshisekedi s'est trompé, il a oublié l'accord. À ce jour, on ne peut plus parler de l'accord. Parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est pour donner du souffle au régime finissant. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, ils ont préparé cette histoire, ils croyaient qu'avec la mort du président Tshisekedi, de raison et moi, que ça serait fini, et ils ont boutiqué des histoires, ils ont mis en place le CENSA, le gouvernement que eux dirigent. On connaît le gouvernement, c'est qui est là. On connaît le CENSA, c'est qui est là. Et avec ça, est-ce que faudra-t-il encore parler de l'accord ou il faudrait aller avec d'autres actions pour booster ces gens ici, pour que ensemble, ou pour que à la fin, qu'on ait des élections transparentes.
Donc, si on comprend bien, pour le rassemblement, l'accord de la Saint-Sylvestre n'existe plus.
L'accord de la Saint-Sylvestre a été torpillé. Alors, pour le rassemblement, on ne peut plus compter sur cet accord, parce que on ne sait pas. Il nous reste quelques jours, quelques mois pour les élections, et déjà avec la tripartite CENSA, gouvernement et CENI, ils nous ont fait une messe noire à Kananga, qui nous disent qu'ils vont reporter les élections. Et croyez-vous que on est dans l'accord avec ça?
Est-ce que ce que vous proposez là n'est pas un schéma qui pourrait amener les pays qui pourrait faire basculer les pays dans les chaos? C'était la préoccupation de M. Alain Parfait Ngolongo.
On ne veut pas amener le pays dans le chaos, mais puisque nos amis en face, c'est l'unique langage qu'ils comprennent, pour nous on se dit qu'on aille avec les actions et à la fin le résultat qu'on aura. On va organiser des élections crédibles.
Merci, Monsieur Serge Kadima. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient une fois de plus de Bukavu, Sud Kivu.
Je suis à Krimou, je barriste à Bukavu, au Sud Kivu. La déclaration de Félix Tshisekedi traduit, à mon humble avis, la frustration totale de la plupart des Congolais qui voient Joseph Kabila récidiver dans la multiplication des stratagèmes de se maintenir le plus longtemps qui est prévu au pouvoir, alors qu'ils ont impatiemment supporté, attendant son départ pacifique pour une passation civilisée du flambeau du pouvoir entre un président élu et lui. Cependant, bien que tombé à point nommé, cet appel risque de ne pas avoir de succès escompté dans une population fortement paupérisée et peureuse, et une opposition aussi divisée et terriblement infiltrée par le régime qui s'appuie sur la fibre dangereuse de diviser pour mieux régner, la désinformation et la répression aveugle.
Serge Kadima.
Merci beaucoup, Évariste, pour votre préoccupation. Je pouvais partager votre lecture de choses si vous aviez dit, par exemple, que l'appel de M. Félix Tshisekedi de pouvoir avoir la passation de pouvoir civilisé entre le président entrant élu et le président qui avait été élu, en fait, le président sortant qui avait été élu, ne pourra pas, cet appel ne pourra pas être exécuté, tout simplement parce que le peuple congolais est devenu mature. Le peuple congolais a besoin de son pouvoir et il exerce son pouvoir à travers les votes. Et les Congolais aujourd'hui attendent les élections. J'aurais souhaité que M. Félix, en tant que leader de l'opposition dans une certaine mesure, puisse mobiliser davantage la population pour que nous puissions aller aux élections. Je vais répondre à Maître Patricia rapidement qui a dit que...
Il va mobiliser la population pour aller aux élections. Quelles élections?
Mais,
pour quand?
Mais si...
Parce que nous sommes au mois de septembre 2017. Il n'y a toujours pas de calendrier électoral. Alors que les élections sont prévues pour le mois de décembre 2017.
Monsieur Félix Tshisekedi s'est enrôlé au mois d'août. Alors, je considère que lui et ses compères de l'opposition qui sont enrôlés au mois d'août, je pense qu'à ce moment-là, il faisait confiance à la CENI et il croyait dans les élections. Je ne vois pas comment lui qui est leader avec ses compères, ou bien nous qui sommes des leaders de la majorité, comment on peut prétendre aujourd'hui faire respecter la Constitution tout en excluant de manière volontaire les compatriotes du Kasaï. Je ne pense pas un seul instant qu'on peut faire des choses de cette manière-là. Je n'aimerais pas qu'on fasse du gâchis avec l'argent du contribuable congolais. On va organiser les élections avec l'argent du contribuable congolais. Il faut qu'on organise des bonnes élections qui ne pourront pas nous amener dans les difficultés.
Mais lorsque, lorsque vous analysez la position prise par M. Félix Tshisekedi, vous ne pensez pas qu'il y a une certaine frustration, n'est-ce pas, qui s'exprime à travers cette position, comme l'a dit M. Parfait Ngolongo?
Je ne dis pas que nous devons faire l'unanimité. Nous sommes dans un pays où règne la démocratie. C'est vrai que nous sommes la jeune démocratie. Nous ne disons pas, ou bien moi je ne dis pas que tout ce que je suis en train de dire devant ces micros sera accepté par l'ensemble de la population. Il y a des gens qui vont accepter ce que je fais, des gens qui n'accepteront pas ce que je fais. Des frustrations, partout nous en avons. Tout le monde n'a pas voté pour le président Obama aux États-Unis. Tout le monde n'a pas voté pour le président François Hollande.
Les frustrations qui sont occasionnées par votre intransigeance de la majorité.
Je vous dis, je ne sais pas comment vous qualifiez ou vous définissez l'intransigeance de la majorité présidentielle.
Madame Seya a parlé de l'accord qui n'est pas appliqué.
On est maître du mot qu'on n'a pas prononcé. Parce qu'on a prononcé un mot ou une phrase, on le devient maître. Et les responsables de ce qu'elle venait de prononcer, de ce qu'elle venait de dire tout à l'heure là. Mais moi je vous dis seulement une chose, pour vous montrer la bonne foi de la majorité présidentielle. Lorsqu'on est en train de discuter à la CENCO, pour gage, nous avons accepté que la minorité, c'est-à-dire l'opposition, qui n'a pas la majorité parlementaire, puisse diriger le gouvernement. Nous avons comme gage de bonne foi, de bonne volonté, céder la présidence du CENSA à l'opposition. Aujourd'hui que l'opposition n'est pas suffisamment responsable, l'opposition est divisée. En quoi la majorité présidentielle est responsable? L'opposition elle est divisée. Où nous sommes responsables en quoi? C'est à l'opposition de s'organiser rapidement pour qu'on nous fasse des propositions, qu'ensemble nous puissions cheminer dans la bonne direction au bien-être de la population.
Merci Alain Parfait Ngulungu. Il y a une question pour vous, elle vient de Kinshasa.
Maxime Kemani, depuis Kinshasa. Cette déclaration reflète la réalité chaotique de la situation de notre pays actuellement. Mais quant à la mobilisation des acteurs politiques de l'opposition comme stratégie afin de faire partir Kabila, pour moi, il me semble inefficace, dans la mesure où nos acteurs politiques de la classe politique de l'opposition sont des ventriotes et prêtes à trahir. Donc, pour moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est la mobilisation internationale pour faire partir Kabila.
Oui, monsieur Alain Parfait Ngulungu.
Merci beaucoup à Maxime. Je crois que je l'ai dit en d'autres mots que la situation, la crise politique, si vous voulez, la crise politique résultant justement de la fin du mandat et de la vacance probable du président de la République dans les prochains jours résulte, c'est vrai, d'une incapacité d'un pouvoir qui, durant des quinquennats, n'a pu organiser ou donner de bonnes élections au peuple congolais, mais qui malheureusement aujourd'hui se retrouve dans une situation d'illégitimité. Nous sommes dans une république moderne, voire même post-moderne, où il faut observer scrupuleusement les normes régissant un État républicain. Alors, derrière tout cela, derrière tous ces masques d'apparence, évidemment, si vous allez du côté, que ce soit de l'opposition ou de la majorité politique, vous entendrez des discours du genre jouant à la défensive, c'est-à-dire... c'est moi les saints, c'est moi qui... à tout moment, vous allez entendre une sorte d'idéologie qui y est fondée sur la bonne volonté de faire les choses. Mais en réalité, lorsqu'on remarque très bien, on voit que les deux parties sont à la défense des intérêts, soit individuels ou collectifs, mais de la composante politique. Et très rarement, les deux composantes vont dans le sens de défendre l'intérêt général, défendre d'incarner pratiquement la volonté manifeste du peuple congolais qui veut aller à des élections démocratiques, qui veut aller de manière pacifique à la passation du pouvoir. Évidemment, c'est chose déplorable actuellement parce que si vous avez suivi dernièrement, il y a quelques mois passés, il y a un ambassadeur accrédité ici qui avait qualifié même le régime actuel de la République de la Gombe. Où on voit, on remarque un groupe d'animateurs des institutions se retrouve réduit sous une sorte de constellation d'acteurs politiques autour d'ENA, bien entendu, la puissance publique, mais qu'il exerce au détriment de l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir actuel, il faut le dire, il ne faut pas s'en cacher, a été incapable d'organiser les élections. Et les précédentes ont été pratiquement chaotiques, que nous les récordons jusqu'à aujourd'hui. Mais comment sortir maintenant de cette voie malheureuse vers laquelle la classe politique...
Les discours de Descamps ne sont pas susceptibles, n'est-ce pas, de nous aider à sortir de cette crise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise? Est-ce que cette radicalisation des deux camps politiques n'est pas en train, n'est-ce pas, de préparer les lits à une éventuelle troisième voie?
Oui, la troisième voie, on la connaît. Un ou l'autre camp peut l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire peut le récupérer, cette troisième voie-là, pour l'utiliser pour son propre intérêt. Donc, nous sommes ici en face d'une absence totale d'un débat intellectuel sur la crise actuelle, la crise politique actuelle que nous traversons. Et nous en appelons à des alternatives, à des idées nouvelles, voire même à une sorte de rénovation dans les discours politiques pour que justement nous trouvions une issue face à cette crise. Mais ce qui est malheureux, j'ai entendu les discours développés ici et là, jusque-là, je suis resté dans ma soif pour entendre une alternative. Mais ce que je pouvais proposer, nous avons encore la chance. Le président actuel, conformément au chapitre 2 de l'accord du 31 décembre 2007, reste jusqu'au, si je ne me trompe pas, au 13 décembre 2017. Donc, il y a encore... Je ne suis pas professionnel politique, malheureusement. Je n'aimerais pas utiliser la langue de bois. Il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire, si les gens ont encore ce sens-là d'État, de revenir à la raison, de mettre en avant d'abord l'intérêt général, de mettre en avant l'intérêt des plus de 80 millions de Congolais qui attendent une issue favorable face à ces marasmes politiques et économiques auxquels l'on a volontairement plongé la République, je crois qu'il y a une solution qui se présente à l'horizon.
Madame Maître Patricia Nseya, il faut mettre en avant l'intérêt général de la nation. C'est ça la solution que propose Alain Parfait Ngulungu.
Et je me demande qu'est-ce que veut dire pour lui mettre
en avant
l'intérêt général de la nation. Mais je lui réponds, c'est ça que le rassemblement est en train de faire. Le rassemblement à ces jours pense que tout ce qui se passe au pays, c'est parce que l'adversaire politique ou le régime illégal ne met pas en avant l'intérêt général de la nation. Là, il ne peut pas nous obliger à nous qui n'avions ni finances, ni armée, ni je ne sais quoi. Il ne peut pas nous obliger à nous de mettre en avant l'intérêt.
Et c'est quoi la solution pour sortir de cette crise aujourd'hui, comme conclusion? C'est quoi la solution?
Pour sortir de cette crise aujourd'hui, comme l'a dit le président Félix Tshisekedi, il faut aller à une transition sans le mal du pays qui est Kabila.
Une transition sans Kabila?
Oui.
Vous pensez que c'est faisable aujourd'hui?
Oui, c'est
dans les conditions du moment.
Oui, avec les actions que le rassemblement et toutes les autres forces vives de la nation vont mener dans les prochains jours, nous allons avoir cette transition et organiser de bonnes élections, des élections transparentes, démocratiques et crédibles.
Serge Kadima, allez mettre en place une transition sans Kabila comme solution, c'est ça la proposition de Maître Patricia Nseya. Votre conclusion?
Penser à une transition sans le président Joseph Kabila, c'est une comédie. Et je l'ai toujours dit qu'il est permis à tout le monde de rêver, parce que je ne vois pas comment on peut interdire aux compatriotes de rêver. Je vais répondre à mon compatriote Alain Parfait Ngulungu qui est avec moi sur le plateau, en prodiguant un petit conseil. Je pense que prochainement, dans un débat comme celui-ci, je suis de la majorité présidentielle, j'assume mon appartenance à la majorité présidentielle.
Conclusion, hein?
Je viens dire ce que la majorité présidentielle est en train de faire. Mm-hmm. En intellectuel, mm-hmm. Si vous estimez que ce que nous faisons n'est pas bon, ou bien ce que je dis n'est pas correct, en tant qu'un intellectuel, il faut faire des propositions. Ne laissez pas les téléspectateurs...
La classe politique ne défend pas les intérêts de la collectivité.
Ne laissez pas les auditeurs de la radio Capi qui sont disséminés à travers le monde perplexes.
Avec la population, je suis sur terrain, je suis un citoyen lambda, je n'ai rien à faire avec vous les politiques, mais ce que j'ai dit incarne bien les aspirations profondes de notre population. Et j'aimerais finir pour dire à mon ami Serge et à Madame Ahmet Lydie
un émon
que les discours politiques tels que développés actuellement doit vous donner une certaine grandeur, parce que la nation, le pays tout entier vous suit. Et donc, ne suivez pas les schémas tracés par et une classe politique vieillissante qui n'arrive pas à donner de solutions idoines à la situation politique que nous trouvons, malheureusement,
merci.
Vous devez, merci, en tant que jeune politique, aller dans le sens de vous concentrer sur l'essentiel.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bonsoir de vous en sur Radio Capitale.